Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. C'est l'âme, pour le dire avec des fleurs. Il y a quelque temps, nous évoquions les contes des mille et une nuits, sans S. Cet ensemble forme, rappelons-le, 12 volumes, renfermant 70 contes et 280 nuits sans illustration. Il fut imprimé chez la veuve de Claude Barbin au Palais Royal, sur le second perron de la Sainte-Chapelle, de 1704 à 1717. Après cette parution, les éditions, les traductions et les ajouts se sont multipliés. En Orient, il a fallu en revanche attendre 1804 pour que soit édité pour la première fois le texte des Mille et une Nuits en arabe. Puis, il y eut aussi des contes des Mille et un Jours qui parurent la première fois en 1710-1712 chez la veuve Ricoeur en 5 volumes. Ce texte était, dit-on, traduit du persan par François Petit de la Croix, mais on n'en retrouvera jamais le texte original. Nous avons en Occident nos conteurs. Il semblerait que les Orientaux en aient davantage, sans doute parce que la magie est plus présente chez eux. Ceci n'est qu'une réflexion et non un constat scientifique. Transportons-nous donc là-bas, de l'autre côté du Bosphore. On y raconte que là-bas, Laxiani avait imaginé un moyen de bavarder avec son soupérant Mohamed, sans rien lui dire, au moyen de la seule offrande des fleurs qu'elle cultivait. Elle était fille de Pacha. Il était pauvre et ils purent ainsi s'aimer. Ce stratagème, qui permettait de communiquer entre amoureux par la voix des fleurs, est appelé « selam ». Le trop charmant frontispice, gravé par Ansom d'après un dessin de Destouche, d'un ouvrage justement intitulé « selam », illustre une scène du genre dans laquelle Née Abdé, une orpheline circassienne, vendue au sultan, se montre attentive aux chansons d'Ayoub le conteur. Cet ouvrage-là, édité à Paris par Astoin et Lavasseur en 1834, est un recueil de morceaux choisis, inédits, de littérature contemporaine. Qu'est-ce que le selam, se demande le préfacier de l'ouvrage qui signe Tégé et qui n'est autre que Théophile Gautier. Est-ce du grec? De l'hébreu? Du chinois? Du sanskrit? D'iroquois? Est-ce un nom d'homme? Un nom de femme? Un nom de contrée? Rien de tout cela. Alors qu'est-ce donc? Tout bonnement un honnête mot turc et non autre chose. Maintenant, que signifie ce mot turc? Et pourquoi sert-il de titre à un livre qui, selon toutes les probabilités, doit être écrit en français? Et le futur auteur du roman de la momie de préciser qu'il est en état d'expliquer la signification du mot selam grâce à une note de Lord Byron. Bien, mais quel est le rapport y a-t-il entre un bouquet de fleurs et un recueil de contes français illustrés de vignettes anglaises? Se demande-t-il ensuite. Il n'y en a aucun. Et c'est pourquoi le titre d'excellent. En fait, selam vient tout simplement du mot arabe qui signifie salut. Il désigne un bouquet de fleurs dont l'arrangement comporte une signification et un message, comme dans le Lys dans la vallée, les bouquets de Félix de Vandenesse. En matière d'amour, l'Orient et l'Occident font usage des mêmes codes. D'ailleurs, Verlaine, dans Amour, n'envoie-t-il pas une pensée à Madame X qui devait être charmante? Écoutez, au temps où vous m'aimiez bien sûr, vous m'envoyâtes fraîche éclose une chère petite rose, frais emblème, message pur, que tout pesé je vous envoie, triste c'est l'âme, mais c'est ainsi, cette pauvre négresse-ci, elle n'est pas couleur de joie. Le selam fut une trouvaille, assurément, car elle aurait dû être intitulée, du moins le livre, Le talisman seconde année, venant à la suite du premier volume de 1832 qui avait obtenu un certain succès. Par suite d'une erreur ou d'une manœuvre commerciale, il existe un talisman d'une troisième année, identique en tout point, texte et illustration, à l'exception de la préface, au selam, et qui porte la même date de 1836. Une curiosité qui échappe parfois aux amateurs de ce type de livre que l'on appelait les keepsakes, à l'imitation de ces livres-albums illustrés de fines gravures sur acier que les Anglais s'offraient à Noël au jour de l'an et qui firent fureur en France dans les années 1830-1840. Il suffit d'en ouvrir les pages pour découvrir les signatures de Dumas, Méry, Naudier, Chateaubriand, Musset, Janin, Sainte-Beuve, Mérimée, etc. Les keepsakes les plus connus ont pour titre « Les Annales romantiques » ou « Paris-Londres, keepsake français ». Juliette Récamier possède un exemplaire de ce dernier, relié en veau noir, orné de ses initiales en lettres gothiques. Il y avait toujours une histoire de bayadère dans ces recueils. Théophile Gautier avait raison, ses larmes étaient donc un beau titre. Il le reprit pour donner un texte à Ernest Rayer, qui le transforma en poème symphonique. Il fut donné pour la première fois au théâtre italien en 1850. Les deux hommes remplis d'imagination n'en restèrent par là, liés depuis leur rencontre à Paris, Rayer venait de Marseille. Ils conçurent également un ballet pantomime en deux actes, Sakuntala, d'après un sujet hindou, où il fut joué 24 fois depuis 1858 jusqu'en 1860. Ce drame racontait l'histoire, qui n'est pas sans résonance avec quelques-uns de nos récits, était connu grâce à la traduction en français par Antoine-Léonard de Chézy, de la reconnaissance de Sakuntala, drame sanskrit, et Prakrit de Kalidasa, publié pour la première fois en original sur un manuscrit unique de la Bibliothèque du Roi, chez Dondet Dupré en 1830. Flaubert avait eu vent de ce qu'on dirait du Mahārata, dans lequel Sakuntala, répudié par son époux le roi Dushmanta, par suite de la malédiction d'un momie, c'est-à-dire un sage, se réfugie dans la solitude où l'élève son fils Bharata. Revenue à la cour, elle est repoussée par le roi qui refuse de la reconnaître, mais elle retrouve l'anneau qu'il lui avait autrefois donné et rentre en grâce auprès de lui. Flaubert donc songea à en tirer un conte oriental, mais n'alla pas très loin. Son manuscrit est récemment passé à Drouot. Le drame vécu par Sakuntala, également inspiré Camille Claudel, qui en réalisa en 1888 un groupe, dont la version en marbre de 1905 est connue sous le titre « Vertum et Pomon ». Gautier avait raison. Cela m'était un bon titre. Il en a engendré tellement d'autres.